peut être diffusé. Le deuxième, c'est que Noémie Keller, qui est depuis plus d'une année au groupe Mission avec nous, on l'a appris hier soir, son mari avait certains symptômes, etc., donc elle doit rester à la maison. Et c'est elle qui devait présider, présenter ce culte ce matin, et ma foi, vu son absence, on la remplace un peu au pied levé, l'équipe. Et c'est vrai qu'elle nous a préparé un texte, je lui ai demandé si elle pouvait, parce qu'elle s'était préparée pour ça, et c'est notre ami Thierry qui va nous lire cela.
La relation d'aide et la mission sont des sujets qui m'habitent profondément depuis longtemps, et c'est dans ce but que j'ai rejoint avec grand plaisir le groupe Mission depuis une année, avec qui j'ai partagé des moments forts. J'aimerais vous lire un passage dans Jean 15, les versets 11 à 16. Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus nous dit qu'aimer son prochain comme soi-même est semblable à aimer Dieu de tout son cœur, parce que son prochain est à l'image de Dieu. Le véritable amour pour le prochain s'enracine dans l'amour pour Dieu. Jésus nous donne le modèle de ce que veut dire aimer ceux qui souffrent. Il prenait garde aux divers besoins de ceux qui l'entouraient, de leur santé, de leurs besoins physiques et affectifs. Il savait aussi à quel point son prochain était affamé d'entendre une parole d'amour et de pardon. Il a aimé de cet amour qui va jusqu'au don de sa vie. Chacun doit chercher devant Dieu le rôle qu'il est appelé à jouer dans ce monde, en sachant bien que personne ne peut tout faire ni s'investir dans tous les domaines. Il faut donc beaucoup de vigilance et d'amour pour que, dans nos motivations et dans les aspects concrets de nos actions, il soit clair que notre but est d'amener notre prochain à vivre dignement, à être libre et à connaître Dieu, ou à renforcer sa foi en lui, comme le font si bien nos envoyés, dont nous allons vous donner des nouvelles.
Merci Noémie. C'est vrai qu'on pense à elle. Et on veut simplement remettre ce culte entre les mains de Dieu, maintenant, ce matin. À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Dans le besoin, Seigneur, nous levons les yeux vers toi et nous savons que tu es notre secours. Tu es celui qui tient toutes choses dans ses mains, y compris les périodes difficiles que nous traversons. Seigneur Jésus, en toi va notre confiance. Merci parce que tu permets encore de nous rassembler aujourd'hui, ici dans cette salle ou derrière notre écran à la maison. Mais Seigneur, nous savons que tu es là, présent, au milieu de nous, et cela nous encourage. Nous savons que tu es là présent auprès de tous nos envoyés, et tu les bénis, Seigneur, ce matin tout spécialement, car ils pensent aussi à nous. Et maintenant, Seigneur, nous t'offrons nos cœurs, nous t'offrons nos vies, Seigneur, et nous t'offrons ce culte ce matin. Sois loué, béni et adoré. Amen. On va avoir un moment de louange, donc il y a plusieurs petits problèmes. C'est que premièrement, vous n'avez plus le droit de chanter. Alors vous pouvez les chanter en sourdine, dans votre tête, tout doucement avec vous. Il faut rester assis. Et puis c'est notre ami Thierry qui va interpréter les paroles que vous aurez devant vous. Et puis, bien entendu, qu'on n'a pas le droit non plus de prier à haute voix dans le public. Donc là, on reste aussi... Ce moment-là sera... Mais on va peut-être laisser un moment de temps, de silence, que chacun puisse le faire à l'intérieur de lui-même. Et puis, bien entendu, il y aura tous les autres gestes barrières de ne pas trop se voir, se rencontrer, se toucher les mains, etc., comme vous le savez déjà. Merci d'avance de votre compréhension. Et puis, pour nous aussi, puisqu'il manque quelques personnes, on pense aussi à Zéna, qui est coincée chez elle avec une sciatique, qui est aussi du groupe Mission, avec Thierry. Et nous pensons aussi à elle, que Dieu la bénisse et la guérisse. Et à tous ceux qui ne sont pas avec nous ce matin pour des questions de santé, Seigneur, que tu les gardes et que tu les accompagnes dans ces moments. Voilà, alors maintenant nous allons passer un moment de louange et je passe la parole à Sylvain.
Et l'humilité à laquelle on est appelé pour être de simples chemins devant les autres porteurs de l'amour du Christ.
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, garde-nous tout petits devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Garde-nous tout petits parmi nos frères, simple chemin devant leurs pas. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde.
Mon Seigneur et mon Dieu.
On se mette d'accord.
Désolé, c'est un autre chant 300. Non, 7.
91.
Sans ta lumière, Seigneur. Et c'est vrai qu'on a besoin de cette lumière particulièrement dans ces temps un peu troublés.
Sans
Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré du vent? Sans ta lumière, Seigneur, mourrions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bas, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bas, au cœur de ton amour. Comme un phare la nuit, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bas, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bas, au cœur de ton amour.
Alors, on aimerait donner maintenant un peu la parole aux envoyés qui, dans d'autres pays, sont en lien avec notre Église et soutenus par le groupe Mission et voilà, travaillent à porter l'amour de Dieu dans le monde. Alors, tu peux lancer, voilà. Il y en a 8 que vous voyez là, hein. Olivier Wenger, les Saillants, les Negrini, les Piou, les Sioel, Tony ou Katie, Charline, et voilà, je les ai donnés sans aucun ordre précis, et Joshua ou Josh, voilà, qui vont être présentés ou se présenter. On leur a demandé s'ils pouvaient nous envoyer quelques photos, des petites vidéos, et on a essayé de rassembler ça. Voilà, alors, on a le plaisir de vous les présenter. On commence avec Charline. Tu peux passer là, Dia. Voilà.
Charline Semon, elle est encore avec nous il y a peu de temps. Et voilà, elle est partie là-bas rejoindre nos enfants, Cédric et Gaël, et nos petits-enfants que l'on voit sur la photo, Mathieu et Lélia. Et elle va là-bas pour donner un appui scolaire à nos petits-enfants. Elle est donc en Guinée. Alors voilà. Elle nous a écrit un petit mot, je vais vous lire pendant qu'on pense quelques photos.
Deux photos.
Bonjour à tous. Cela fait maintenant plus de 2 semaines que je suis arrivé en Guinée. Je suis d'abord arrivé à Conakry, la capitale. J'y suis resté quelques jours afin de pouvoir renouveler mon visa pour toute l'année. Cela n'a pas été facile à cause du Covid. L'administration guinéenne voulait me donner un visa pour seulement 3 mois. Le chef de SAM Global, donc la mission qu'il emploie, ici en Guinée, est alors parlé avec le ministre des Affaires étrangères et j'ai pu obtenir mon visa pour 1 année. Après cela, avec la famille Chanson, nous avons pris la route pour Kissidougou, une ville située à 600 km à l'intérieur du pays. Nous avons mis 14 heures. La route est très mauvaise, de très mauvaise qualité, et le fait que nous soyons à la fin de la saison des pluies n'arrange rien. Je suis en revanche très reconnaissante que le voyage se soit bien passé. Nous étions un peu inquiets, car sur la route, il y avait des barrages militaires qui contrôlaient si la voiture était en ordre, et particulièrement pour les Blancs. le test Covid négatif était contrôlé aussi. Grâce à Dieu, nous avons passé tous les barrages sans même nous arrêter, car ils nous laissent passer sans rien demander. L'adaptation à la vie kéléenne n'a pas été facile tout de suite, mais maintenant je peux dire que cela va mieux. Ici, personne ne parle du Covid, appelé la maladie des Blancs, mais tout le monde est préoccupé par les élections présidentielles qui ont eu lieu la semaine passée. Heureusement, il n'y a pas trop de tensions, même si le marché en ville a été fermé pour éviter que les gens se rassemblent. Le gouvernement a aussi coupé la connexion Internet pendant plusieurs jours dans tout le pays. Alors là, je rajoute qu'aux dernières nouvelles, donc, il y a eu des tensions, il y en a toujours à Conakry, parce que bien sûr, ces élections sont toujours, et l'un et l'autre ne reconnaissent pas les résultats, mais à Kissidougou, la vie est calme, là où se trouve Charline. Nous sommes donc restés tranquillement à la maison. Cela n'a pas facilité mon intégration, mais j'ai quand même pu rencontrer des personnes. J'ai rencontré des amis de la famille Chanson, ainsi que les personnes avec qui ils travaillent. Tout le monde est content de me rencontrer. J'ai l'impression que tout le monde me connaît déjà, car Cédric et Gaël leur ont parlé de moi. L'accueil est une très grande qualité des Guinéens. J'ai également découvert le marché. Ici, il n'y a pas de supermarché, effectivement. Les gens viennent vendre ce qu'ils ont dans la rue. L'ambiance est particulière. Il faut s'imposer si on veut acheter quelque chose. Mais je m'y habitue progressivement. Je suis venu à Kissidougou comme aide à l'enseignement pour Lélia et Mathieu. Nous avons bien commencé l'école. Nous avons un planning pour la semaine et les cours sont dans des manuels. Nous suivons donc ce qui est proposé. Les deux enfants ne sont pas dans la même classe. Pour les mathématiques, le français, l'allemand et l'anglais, ils ont chacun leur programme. Mais pour l'histoire et les sciences, ils font cela ensemble. Ça se passe très bien. Je m'entends bien autant avec les enfants qu'avec les parents qui m'ont bien accueilli ici à Kissidougou. Je vous remercie pour votre soutien dans la prière et je me réjouis de vous raconter la suite de mes aventures en Guinée. Charline Semon. Là, c'est la classe. On voit Lélia et Mathieu. Ils sont dans la même classe, mais ils ne sont pas dans la même année scolaire.
Voilà, on passe, on reste en Afrique, mais on descend en République démocratique du Congo, puis on change d'âge parce qu'on passe d'une toute jeune à un retraité qui fut parmi nous quand il travaillait à l'OMS, Tony Ouketti, qui a même été membre du conseil dans notre église, et voilà. On n'a pas beaucoup de nouvelles, mais...
Je ne parle pas si longtemps, hein, comme Paul Robert. Mais moi, c'est seulement 1 minute 8 secondes et demie. Well, le docteur Tony Ouketti est un pionnier dans la prévention de la sécheresse des rivières, également connu sous le nom d'onchocercose. C'est difficile, ces paroles. Il a débuté sa carrière comme ophtalmologue dans une clinique à Nyankunde, en République démocratique du Congo, RDC, l'est de RDC, à côté frontière avec Uganda, où il a découvert que l'onchocercose était un problème de santé publique majeur dans cette région. Lorsque Merck et compagnie a fait don du médicament Mectizane pour traiter et prévenir l'onchocercose, Tony a créé ce qui est devenu un programme très réussi au RDC. Malgré des années de conflits civils, pendant de nombreuses années, le docteur Ouketti a été le coordinateur de l'organisation non-gouvernementale de développement pour la lutte contre l'onchocercose à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, où il a défendu des partenariats mondiaux pour lutter avec succès contre l'onchocercose en Afrique et préparer le terrain pour son élimination. C'est son rêve, et nous on va rêver avec lui. Merci.
Voilà, là on change de continent pour rejoindre de nouveau un change d'âge, hein, avec un jeune que vous avez vu de temps en temps ici, Josh, mais il va se présenter lui-même.
Bonjour l'Église évangélique de Merin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Josh Porter, je suis le fils de David et Perle et je suis missionnaire au Brésil. Jésus nous a envoyé faire des disciples et c'est ça que je fais à plein temps. Depuis 2017, je travaille ici au Brésil avec une organisation internationale qui s'appelle Pace Movement. Notre vision est qu'un jour, la principale mission de chaque chrétien soit d'avancer le royaume de Dieu, étant équipé à faire cela de la même manière que Jésus l'a fait. Nous travaillons en partenariat avec les églises locales pour atteindre les élèves des collèges et des lycées avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous accompagnons dans le discipulat les élèves qui s'intéressent à avoir une relation avec Jésus. Nous les intégrons dans l'église locale et nous les formons dans l'étude de la Bible, l'évangélisation et la formation des disciples pour qu'eux aussi puissent faire avancer le royaume de Dieu parmi leurs amis, leur famille et leur communauté. Depuis août 2019, nous avons atteint plus de 3500 élèves et nous avons formé plus de 70 ados à être missionnaires là où ils sont. Je suis devenu récemment le directeur national de Pays Mouvement au Brésil et je dirige alors l'équipe nationale qui travaille à temps plein dans la formation et l'accompagnement de nos missionnaires, dans le recrutement de nouvelles églises partenaires et de nouveaux volontaires, dans la recherche de fonds pour le ministère et dans la formation de leaders de jeunes dans l'église brésilienne. Pendant ce temps de distanciement social, nous continuons d'atteindre des écoles par vidéoconférence. Nous avons créé un nouveau programme d'enseignement interactif en ligne par lequel nous allons former des centaines de jeunes brésiliens dans nos outils de mission. En 2021, nous projetons mettre en place 3 nouvelles équipes missionnaires qui auront la possibilité chacune d'atteindre environ 3000 ados par année. Priez avec moi pour des portes ouvertes dans les églises et les écoles pour qu'on puisse apporter espérance à encore plus d'ados et les recruter pour l'avancement du royaume de Dieu. Merci pour votre soutien et à la prochaine.
On reste dans la tranche jeune, avec, tu peux mettre la photo, je pense, voilà, avec Olivier, fils de Marcel et Anne-Marie, le frère de Sylvain, qui depuis quelques années hein, maintenant travaille à Cornerstone, aux Pays-Bas, voilà, j'allais dire Hollande, aux Pays-Bas, et il travaille dans un institut de formation de missionnaires qui part dans le monde et lui s'occupe spécialement du secteur informatique. Alors, il va se donner quelques nouvelles de lui et d'une autre personne qui est une réponse à des prières. Voilà.
Bonjour à tous. Cette mission m'a demandé de partager avec vous quelques sujets d'actualité de ce qui se passe. Bonjour à tous. La groupe mission m'a demandé de partager avec vous quelques sujets d'actualité de ce qui se passe de mon côté, ici à l'école Cornerstone aux Pays-Bas. Et pour être suffisamment visuel, j'ai désiré vous partager un petit peu les changements qui ont été introduits dans l'enseignement suite au début de la pandémie. Alors, la plupart des classes se passent toujours comme d'habitude ici, avec l'enseignant qui se trouve où je suis actuellement, et les étudiants dans la salle de classe. Mais parfois, nous avons aussi des intervenants externes supposés venir de d'autres pays, et en raison des restrictions de voyage, ne peuvent pas venir enseigner dans la salle de classe même. Donc pour continuer l'enseignement, différentes solutions ont été introduites, plateforme web et solutions de vidéoconférence. Et typiquement, dans une solution de vidéoconférence, l'enseignant se retrouverait ici sur l'écran et suivrait ce qui se passe dans la salle de classe à une caméra. Alors, de mon côté, étant informaticien, c'est relativement simple à mettre en route et tout ceci. Par contre, ça reste quand même un défi pour les différentes personnes d'employer ces outils. Et c'est l'un des défis pour moi, c'est de trouver les outils les mieux adaptés, les plus simples d'emploi, dans la mesure du possible, et après d'expliquer aux gens comment employer ceci. Voilà, en très résumé. Alors, je vous souhaite une excellente journée, et je me réjouis de vous revoir une prochaine fois.
Oui, le collège biblique Cornerstone est aussi un endroit où vous rencontrez de nouvelles personnes. je m'appelle Gabriela Kneim et je viens de Vigny, en Turgovie. Actuellement, je suis en Suisse et participe à un cours préparatoire pour mission avec de l'organisation de WEC. Mais voyons ce que fait mon fiancé aux Pays-Bas.
En Italie, et c'est Thierry qui va présenter la famille Saillant.
Voilà,
Alors, donc, comme vous le savez, donc, les saillants sont à Fucecchio, donc en Italie, et Jean-Claude nous a envoyé un mail de nouvelles. Je vais vous lire son mail. Nous allons le mieux possible en cette période pleine d'incertitudes. Pas facile de repartir avec les activités. Nous sommes motivés, mais c'est une belle bataille. Les difficultés et mauvaises nouvelles ne manquent pas, ceci dit. Nous choisissons de partager un moment heureux qui aurait dû avoir lieu au mois de mars, l'inauguration du local, de l'association et en particulier du vestiaire. Nous espérons aussi partir en novembre avec la 4e édition du cours de langue italienne pour étrangers. Beaucoup de demandeurs d'asile, mais pas uniquement. À cause des mesures anti-Covid, nous avons limité les présences à une 30aine de personnes et avons retransmis la cérémonie sur Facebook. Parmi les présences, le maire de notre commune, deux responsables des services sociaux et deux communes des alentours, le prêtre responsable de Caritas. Nous nous sentons de plus en plus intégrés dans le réseau des diverses organisations qui opèrent dans le social dans notre région, Empoli et les communes voisines, dont Fucecchio et Sovegliana Vinci. Lors de la cérémonie, la responsable des services sociaux de notre commune a témoigné de la fois où, lors d'une rencontre dans son bureau, elle avait partagé sa douleur et préoccupation pour un collègue en fin de vie à l'hôpital. Je lui avais proposé de prier très simplement et cela l'a beaucoup touchée. Entre-temps, son collègue n'est pas décédé. Il reprend lentement des forces et est prêt à reprendre son poste de travail. Licia a été présente avec un bref message vidéo. Elle se trouve en Suisse pour s'occuper de nos petits-enfants chez Fabien. Notre belle-fille est au Brésil auprès de sa maman après le décès subi du papa.
Oui, on passe maintenant à Flavien et Annette Negrini. Je ne sais pas si Paul-Robert, tu veux en dire quelque chose avant la vidéo.
Alors, Flavien et Annette Negrini sont donc à Poitiers, en France.
Viens au micro pour que ça passe.
Ils vont se présenter eux-mêmes, je crois. Enfin bon.
Oui, oui.
Flavien et Annette Negrini, vous les connaissez, ils sont venus ici, ils étaient ici d'ailleurs. Enfin, Flavien en tout cas. Le papa de Flavien même était ancien. Au milieu de nous, à l'époque, on appelait les gens, les responsables des anciens. Et Flavien et Annette ont maintenant un ministère d'implantation d'églises, de fortification dans les églises qui commencent, qui partent, notamment une à Poitiers, puis une autre à Rouillé, à 30 km de là. Alors je laisse la parole, et c'est vrai que c'est des gens qui sont accompagnés par notre communauté.
Merci à chacune et à chacun de l'Église de Meyrin pour votre soutien, pour vos prières, pour votre amitié. C'est vraiment précieux pour nous de savoir que vous êtes là et que nous ne sommes pas seuls ici à Poitiers, même si parfois c'est un sentiment qu'on peut avoir de découragement, parce que ce n'est pas toujours facile d'accompagner des personnes au quotidien. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Les fruits ne sont pas toujours à la hauteur de notre attente.
Tout à fait.
Alors, quelques mots sur l'activité des dames de l'Église, mais pas uniquement, qui s'appelle le groupe des gazelles. Les gazelles, simplement, un peu décalées. Et ce groupe de gazelles se rencontre tous les 2 mois à peu près. Mais ça peut aussi être plus souvent en fonction des envies des unes des autres. Dernièrement, nous avons fait une balade en forêt. C'était un moment d'échange très, très libre, très convivial. Et il y a 2 semaines, nous avons un après-midi ludique avec un grand jeu de société avec pour thème « bas les masques ». Donc l'idée, c'était de pouvoir se connaître un petit peu mieux, des questions, des mimes... où chacune était censée partager un petit bout d'elle. Donc c'était vraiment très chouette.
C'est vrai que le soutien que vous nous offrez à distance nous aide à persévérer dans les temps difficiles. Nous n'avons pas à nous plaindre, nous sommes quand même reconnaissants, des hommes, des femmes rencontrent Jésus au milieu de nous. Mais c'est vrai que les chutes sont aussi fréquentes, et les rechutes aussi. C'est un travail laborieux, mais en même temps passionnant, et les rencontres sont tellement étonnantes souvent, et stimulante aussi pour notre propre foi. Cette énergie engagée, d'autant plus qu'Annette travaille aussi ailleurs, elle ne travaille pas qu'à l'église, ce n'est pas à la mesure de l'engagement qu'il y a des retours. quoi qu'il en soit, merci. Je crois qu'il y a vraiment un champ de Dieu dans ce coin de France. Et merci d'être avec nous ouvriers dans ce champ.
On reste en France avec les Sewell, puis les Piou pour terminer, qui auront une vidéo un peu plus longue.
Alors, voilà, Roger et Dominique ont été couple pastoral au milieu de nous. Enfin, Roger était notre pasteur pendant bien quelques années, et il est arrivé à la retraite, donc il nous a quittés. Mais ils ont désiré faire une retraite active, et ils sont partis à Entrepierre. Je ne sais jamais si c'est Pierre Vivante, Entrepierre, c'est le village, près de Sisteron, où se tient l'association Pierre Vivante, où ensemble, les deux, ils font avec les autres, avec l'équipe, il y a toute une équipe là-bas. Il y a Jonathan, je crois, au milieu, c'est un dénommé Jonathan, je ne sais plus comment, qui est le directeur de tout ça, et qui accueille, font du débriefing, de la relation d'aide, etc., notamment pour des personnes en difficulté, des couples, des envoyés, des missionnaires qui ont eu des problèmes, qui ont souffert certaines choses, etc., ou simplement des couples qui viennent là-bas pour se décharger et recevoir quelque chose. Et donc, Roger et Dominique sont engagés dans ce service. Et voilà, nous les soutenons aussi dans la prière, la pensée, et ils sont aussi accompagnés par notre Église. Ah oui, les Piou. On les connaît. Eux, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont partis. Je rappelle que Jean-Marc était actif dans notre communauté il y a longtemps, Coffee Bar et compagnie. Et ça a été un bon coéquipier à l'époque. Et ils se sont formés, tous les deux, Martine et Jean-Marc, et ils sont partis premièrement à Bordeaux, vous rappelez, près de Bordeaux, après Lyon, après Grenoble. Et maintenant, ils sont à Grenoble. Alors, ils vont faire une vidéo, mais qui va durer un peu plus longtemps. Et pourquoi on a décidé de la passer? Parce qu'en fait, Jean-Marc, et oui, il est aussi rattrapé comme tout le monde, par l'âge de la retraite, et l'année prochaine, c'est la retraite. Alors, je ne dis pas qu'il va s'arrêter d'un coup comme ça, j'en sais rien, mais ils vont nous partager un petit peu ce qu'ils ont. Là, on a décidé qu'à cause de ça, c'est leur laisser aussi le temps de nous dire quelque chose. Alors, Jean-Marc et Martine Piou, également envoyés et accompagnés par notre communauté de Mérin.
Bonjour à tous, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous lors de ce culte mission. C'est aussi une manière aussi de pouvoir vous rencontrer et de vous partager notre actualité de vie. Actualité justement qui est particulière pour moi, puisque lundi dernier en fait j'ai été testé Covid positif. Donc je suis dans une phase de 7 jours de convalescence, avec toute la fatigue qu'il y a avec et les temps de repos nécessaires en journée pendant ce temps de récupération, si on peut le dire comme cela. Quoi. Et pour toi, Martine, vous voyez, je garde la distance l'un avec l'autre.
Voilà. Alors moi, j'ai aussi été testée lundi parce que j'étais cas contact et mon test est revenu négatif. Donc nous faisons très attention en ce moment chez nous. Nous n'avons vu personne.
Voilà, donc on a eu aussi une actualité qui était très riche durant ces derniers mois et on veut juste vous donner quelques facettes de cette actualité et peut-être remonter à il y a 2 mois en arrière avec notre camp famille. C'est Martine qui va nous en dire quelques mots.
Voilà, alors chaque été, depuis plusieurs années, nous organisons un camp famille en Haute-Loire. C'est entre le Puy-en-Velay et Saint-Étienne. Et cette année, le camp était vraiment plein avec 19 familles. Nous étions sur le centre 140 personnes, avec des gens qui ont été très compréhensifs sur tout ce qui était à mettre en place au niveau sanitaire. Tout s'est vraiment bien passé avec des gens qui étaient vraiment formidables. Nous avons eu des temps de discussion, des temps d'échange en profondeur qui étaient vraiment très très forts cette année. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu faire le camp, d'avoir pu avoir autant de monde que l'on voulait parce que les conditions d'accueil le permettaient. Voilà, et nous sommes revenus très, très encouragés par ces temps avec les familles.
Concernant l'Église, c'est un petit peu particulier. Nous avons commencé l'année 2020 au mois de février, juste avant le temps du confinement général en France, par la visite d'éventuels futurs nouveaux locaux, parce que nous sommes dans cette phase un petit peu de croissance et on aimerait pouvoir avoir des locaux plus adaptés par rapport à nos besoins. Donc ça, c'était février. Le confinement est arrivé et c'est... Voilà, on est dans une réalité quand même qui est assez compliquée. Au jour d'aujourd'hui, nous avons choisi pour cette année 2020-2021 comme thème général être ensemble une église qui rayonne. Ben, il faut accepter le fait que rayonner n'est pas facile parce que nous sommes dans cette phase de limitation des interactions entre les personnes. Donc c'est quand même très compliqué de vivre cela. Mais simplement un exemple, dans notre lieu de culte, si tout le monde pouvait s'y rassembler librement, si on peut le dire comme cela, nous pourrions être 110 places. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes limités en fait à 40 personnes accueillies avec les personnes qui font l'accueil, la louange et la technique. Donc ça limite beaucoup les possibilités d'accueil. L'accueil se fait sur inscription, quoi. Et puis il y a aussi tout le reste hein, de l'ambiance générale qui n'est pas simple parce que nous sommes dans l'obligation, bien sûr, de garder du lien avec les personnes. Comment est-ce que tu le vis, Martine, toi ?
Alors, garder du lien avec les personnes par les SMS, les visios, c'est utile, mais à la longue, ça devient très frustrant parce qu'on n'a pas le relationnel, le feeling, la discussion informelle. Et tout le monde passe beaucoup de temps au téléphone et devant les écrans pour son travail. Et remettre ça le soir, on se rend compte qu'on est arrivé un petit peu au bout de ce système qui est un peu de fatigue générale. Mais d'une manière générale, cas à cas, on continue quand même à avoir des bonnes relations avec les gens. Et en automne, chaque année, nous organisons une bourse aux vêtements d'hiver et aux jouets. Cette année, nous avons tout préparé la bourse, tout le matériel est prêt. Mais avec les nouvelles normes qui nous sont arrivées du gouvernement, nous nous rendons compte que ce sera peu probable qu'elle ait lieu. Et nous regrettons beaucoup parce que ça, c'est toujours un temps de convivialité avec les gens du quartier. Nous touchons beaucoup de gens très modestes. On garde la même pub d'année en année, et ce qui fait que les gens la reconnaissent très vite, même ceux qui ont de la peine à lire ou lire en français. Et cette année, nous ne rencontrerons pas toutes ces mamans qui viennent chaque année vraiment faire le plein de vêtements à des prix très, très raisonnables.
On aimerait finir cette petite vidéo par vous partager finalement un souci qui est certainement aussi le vôtre. En fait, dans cette crise sanitaire, en fait, tout nous invite à vivre à distance les uns à l'égard des autres. Mais finalement, comment arriver à vivre l'Église ensemble? Comment finalement édifier les chrétiens? Comment soutenir ceux et celles qui passent par des temps d'épreuve? Et puis, bien sûr, ne pas oublier que nous sommes appelés à avoir un témoignage de notre société. Toutes ces questions-là sont les nôtres, je suppose qu'elles sont aussi les vôtres. Notre prière, c'est que nous puissions vivre ensemble, l'Église de l'Occident, en étant renouvelée dans notre créativité, dans notre inventivité, pour rejoindre les personnes, et que nous n'oublions pas que finalement, si il y a une limitation dans l'accueil de nos locaux, les bâtiments sont une chose, mais les relations entre les personnes, c'est ça qui est le plus important. Donc on vous souhaite un bon temps de culte mission, que Dieu vous bénisse aussi en tant qu'église de Mérin. On se réjouit quand ça ira un petit peu mieux de pouvoir vous rencontrer à nouveau. Et merci pour ce temps et pour ce partage que nous avons pu faire ce matin.
Changer un tout petit quelque chose dans le programme qu'on avait prévu.
Je voulais prier avant.
Voilà, peut-être. Mais c'est bien, c'est ce que je voulais faire. Ah oui, prier pour nos envoyés. Vas-y.
Ok, mais j'ai envie de retenir ce que Jean-Marc nous a dit en conclusion. Une église qui rayonne, développer des relations, même si on est limité dans nos locaux, même si on est limité dans la proximité. Voilà, mais si tu... Voilà,
okay, vas-y, prie.
Oui, ok. Seigneur, nous te... remercions pour cette vision de ta mission qui se poursuit dans les différents continents par différents moyens, de différentes manières, mais avec toujours des défis. Seigneur, bénis nos envoyés, encourage ceux qui sont peut-être découragés face aux difficultés de de la vie, de la mission, de la situation. Et donne-nous aussi à nous cette inventivité dont parlait Jean-Marc pour être des témoins dans ce monde. Amen.
Alors j'en profite, parce qu'on ne peut pas tous prier ensemble, on aimerait bien prier pour chacun, prendre le temps, et merci à tous ceux, à tous qui ont répondu à notre demande de se présenter, j'espère que ça vous a intéressé. Et le groupe Mission a édité un nouveau signet qui va vous permettre, avec la photo de chacun, de tous ceux qui se sont présentés ce matin, avec leur, rappeler où ils sont, leur ministère et leur petite adresse e-mail. Et ça, ce signet, vous pouvez le glisser dans votre Bible, le mettre dans votre cuisine, enfin là où vous voulez. Comme ça, ça vous permet de prolonger cette prière pour eux, chez vous, à la maison. Et le faire librement et sans masque. Alors, ces signets, on en a tout un paquet. On peut vous les distribuer à la sortie, vous les donner. Et puis, bien entendu, que pour ceux qui ne sont pas là, la prochaine fois que vous venez, demandez-les et on vous les donnera. Je rappelle juste ces signets, c'est pour un usage interne. Voilà. Je passe maintenant la parole à Sylvain, qui va nous parler un petit peu de la mission au Laos.
Bon, j'ai essayé de brièvement donner quelques échos. Est-ce que je peux enlever ça ? Oui ? Bon, ok. Quelques échos de mon dernier voyage au Laos, puis d'être un peu bref. Avec une petite fenêtre sur ce qu'est la mission aujourd'hui dans un pays comme ça, et puis la situation des chrétiens qui demandent nos prières. Je suis donc parti le 19 février en projetant de passer 7 semaines en Thaïlande et au Laos. Puis ici, on commençait à parler d'un certain virus. Et des gens me demandaient, mais est-ce que tu fais bien de partir là-bas? Surtout qu'on en parlait un peu en Chine, à cette époque. Puis il s'avéra, en allant là-bas, que finalement, les risques étaient beaucoup plus élevés ici que là-bas. J'ai commencé par un séjour en Thaïlande pour travailler avec un ami, qui est le docteur Pafik, sur l'histoire de l'Église au Laos. J'avais écrit un livre en français qui a été traduit en anglais. Lui, il a travaillé il a essayé de récolter un peu ce qui s'est passé dans les églises, un peu dans toutes les provinces du pays et dans ces dernières années. Et on essaye de mettre tout ça ensemble. Lui, c'est un homme remarquable parce que c'est quelqu'un qui était d'une famille non chrétienne, qui a découvert l'évangile en travaillant avec un médecin dans les années 70. Il a découvert un évangile incarné vraiment dans un service et je vois qu'il porte ça avec lui toute sa vie. Il est un témoignage formidable aussi par la manière dont il est resté fidèle dans le pays. Il n'est pas parti à un moment où tous les gens qui avaient des contacts avec les étrangers se sentaient menacés et cherchaient à fuir. Il est resté au service de son pays et au service de son Église. Et voilà, c'est un témoignage magnifique qui porte des fruits aujourd'hui. Alors on s'était donné rendez-vous avec lui et puis dès qu'il est arrivé, avant même qu'il puisse me rejoindre à l'hôtel, voilà que sa voiture tombe en panne. Alors c'est un premier des imprévus, comme j'en ai toujours beaucoup au Laos, mais je me faisais quand même une petite réflexion. J'ai l'habitude que là-bas il y a des imprévus puis que le programme il change 2 fois par jour. Mais en Suisse, on est plutôt habitué à ce que les choses soient programmées 2 à 3 mois à l'avance, quand ce n'est pas plus. Et puis, je trouve que ces temps, c'est presque un petit peu comme quand je vais au Laos. On programme avec une présidence de culte de Noémie, et puis hier, elle nous dit qu'il y a le Covid qui l'empêche de venir. Voilà. Alors, j'ai passé ce temps en Thaïlande, ce temps aussi à visiter un ami laotien qui est retourné parmi ses compatriotes pour être missionnaire parmi les gens de sa propre ethnie. Puis ensuite, au Laos, je suis parti pour visiter des amis et des projets. À Savannakhet, on a un centre de formation qui est appuyé par le SME, qui est géré par le fils du docteur Pafik dont je vous ai parlé tout à l'heure,
et ça forme des gens à toutes sortes de métiers, mais des choses très simples. Mais pour que des gens, des villages, puissent avoir accès à un minimum de formation, avoir accès à un métier avec lequel ils puissent gagner leur vie. Et puis, différents projets que le SFE, Service fraternel d'entraide, a dans le sud du pays, des projets médicaux, des projets agricoles, des projets de développement communautaire au service du pays. Alors, je vous en dis un tout petit peu plus tout à l'heure. Mais voilà, là encore, mon programme a été chamboulé. Au milieu de ma visite, on commençait à avoir certains cas de Covid dans les pays environnants, pas encore au Laos, et le gouvernement a commencé à prendre des mesures. Et tout d'un coup, tous les projets de visite dans les villages étaient arrêtés, il y avait des restrictions dans les déplacements, les gens commençaient à devoir travailler par visioconférence. Et puis, mes amis ont commencé à me dire « Ah, ça je ne vais pas pouvoir rester ». En fait, j'avais encore 2-3 semaines de programme. Alors là encore, il a fallu changer, et puis je ne vais pas vous raconter les détails parce que ça serait trop long, mais je suis finalement décidé de partir. Le samedi, je suis monté à la capitale. Le dimanche, je suis monté à la capitale et on m'a dit qu'il faut sortir tout de suite. J'ai passé une heure à la capitale, il a fallu vite faire encore un contrôle médical, passer en Thaïlande. Entre-temps, j'avais plus de billets parce que tous les vols étaient annulés, j'en avais repris qu'ils étaient annulés. Puis finalement, je suis rentré sans encombre, mais il s'est avéré que c'était peut-être le dernier jour où je pouvais le faire. Et mon ami, le pasteur laotien qui habite à Lyon, qui était en même temps que moi et qui est resté un peu plus longtemps, lui, il vient de rentrer il y a un mois. Mais bon, lui, il a une maison là-bas, donc il a fait un magnifique ministère pendant 7 mois qui était totalement imprévu. Alors, si je fais ces voyages, c'est parce que c'est un pays où j'ai vécu, comme je pense beaucoup le savent déjà, vécu 3 ans et demi là-bas, j'ai travaillé parmi les réfugiés, puis c'est, voilà, quelque part attaché à ce pays dont j'ai appris à connaître la langue et la culture, et c'est quelque chose qui est très enrichissant. J'ai continué à faire tout mon possible pour servir ce pays, puis encore aujourd'hui, c'est une bonne partie de mon temps. En fait, cette mission, elle a commencé en 1902, donc il y a très longtemps, avec 2 jeunes missionnaires suisses qui avaient 26 ans. Et puis, ce n'était pas en avion qu'on allait là-bas, c'était incroyable comme aventure. Alors, je ne vais pas vous la raconter, mais elle a duré 3/4 siècle sous une forme qui s'est brusquement arrêtée à la fin de la guerre du Vietnam, quand toute cette région du monde est devenue communiste. Et que les églises se sont retrouvées totalement isolées. Mais Armand Henniger et moi avions cette conviction qu'on ne pouvait pas laisser tomber ce pays, qu'il fallait continuer à porter notre aide d'une manière ou d'une autre et à retrouver des liens avec les chrétiens que nous avions connus. Il a fallu 20 ans pour que naisse ce service fraternel d'entraide auquel j'ai fait allusion et qui aujourd'hui a un service dans 4 provinces du sud du pays, avec une quinzaine d'expatriés de différents pays européens, même une américaine et même une personne des Philippines, plus une 60aine de collaborateurs locaux. Alors, on ne peut pas vous... Je vous donne juste cette image de ce qu'est la mission aujourd'hui, qui est un service qui se fait en collaboration avec le gouvernement, avec une solidarité discrète, mais quand même très significative, avec les chrétiens du pays. Alors, l'église du Laos, c'est une église qui est autonome. Elle a dû même devenir brusquement autonome quand les missionnaires ont dû partir en 75. Et c'est cette église qui est le cœur du témoignage chrétien. C'est une toute petite minorité, c'était une toute petite minorité qui a beaucoup grandi en période de persécution sans aide extérieure aucune, parce que l'évangile était inscrit au cœur des chrétiens. Et maintenant, elle est présente dans toutes les provinces. Alors, il y a une situation complexe entre beaucoup de liberté dans certains lieux, dans certaines circonstances. Par exemple, dans des grandes villes, ils ont réussi à faire
un monstre concert de louanges évangélisation dans un stade, des trucs qu'on n'arriverait même pas à faire chez nous. Puis par ailleurs, souvent dans les villages reculés, il y a des persécutions qui sont très 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 dures, plus tout un certain nombre de discriminations qui dont sont victimes les chrétiens. C'est vrai que l'Église, elle est très surveillée dans ce pays, avec des autorités qui se méfient des chrétiens, un peu de la même manière, pour faire une comparaison, que nous, aujourd'hui, on se méfie des mosquées en Europe. Je n'ai pas le temps d'expliquer un peu le mécanisme, il y a des raisons historiques à tout ça, mais il y a un autre aspect, c'est la confrontation avec les religions animistes. Si c'est un pays bouddhiste, la majorité des gens, une grande partie des gens en tout cas, ont vraiment des racines animistes. Et les gens dans les villages ont peur quand des gens se convertissent. Ils ont peur parce que ces chrétiens ne vont pas participer au rite. Ils ont peur que, quelque part, les esprits auxquels ils croient se vengent. Et s'il arrive un malheur, si quelqu'un meurt, on va dire c'est à cause d'eux. Et le gouvernement qui devrait protéger les chrétiens parce que il y a théoriquement la liberté de constitution, ils vont dire, mais ces gens, ils viennent perturber la paix sociale. Alors voilà un peu dans quelle situation vivent les chrétiens. J'aimerais juste vous dire, pour terminer peut-être, si je le retrouve là, mon ami Ivan, qui a fait ses 7 mois de séjour alors qu'un seul était prévu, il a bien pu visiter des chrétiens et voir un petit peu les difficultés auxquelles ils vivaient. Puis en même temps, il y a des choses très encourageantes. Il y a cet homme qui habite tout près de sa maison, qui s'appelle Yun. C'est un homme qui déjà a perdu son père il y a, je pense, environ 60 ans ou quelque chose comme ça, qui était un chaman qui a été assassiné quand il s'est converti. Et le fils de ce chaman assassiné, qui est maintenant passé 80 ans, il venait chez mon ami pasteur tous les matins à 6 heures du matin pour prier avec lui. Il priait aussi pour les missionnaires, des gens qu'il n'a pas revus depuis un demi-siècle et qu'il a toujours dans son cœur. Et voilà, c'est juste une image que je trouve extraordinaire de la foi. Moi, je fais pas autant, moi, je prie jamais autant que ça. Hein. C'est des gens qui nous apprennent quelque chose. Van parle aussi d'une région à 30 km de Paxong, pour ceux à qui ça peut dire quelque chose, il y avait un petit groupe de chrétiens qui, du temps des missionnaires, et puis qui avaient plus ou moins disparu. Et puis il a revu ces gens, il a rencontré les enfants et les petits-enfants de ces chrétiens d'ailleurs, qui se souviennent et qui témoignaient de la foi de leurs aïeux de cette époque-là. Voilà, il y a une espèce de lien là entre le développement de l'évangile et aussi la semence qui a été portée avant. Et puis il y a des gens pas mal de chrétiens dans beaucoup de villages qui vivent des persécutions dures maintenant. Voilà, je ne veux pas donner plus de détails, mais voilà, ils ont aussi besoin de nos prières. Merci. Toi, lève-toi, porter l'amour de Dieu au monde.
Toi, lève-toi et va au nom de Christ porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom de Christ porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Toi, lève-toi et va au nom de Christ porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom de Christ porter l'amour de Dieu au monde. Comment les pauvres, les démunis seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Toi, lève-toi et va au nom du Christ porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ porter l'amour de Dieu au monde.
Grand petit moment. Toi, lève-toi et va, au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Lève-toi. Dieu est amour. C'est là sa caractéristique. Dans Jean 3,16, ce verset bien connu, nous lisons que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset très connu contient en fait toute notre espérance. Notre espérance, c'est quoi? C'est la vie après la mort. Et plus que cela, la vie éternelle. Toi, lève-toi et va porter l'amour de Dieu. Cette espérance que nous pouvons transmettre en Jésus-Christ à ceux qui nous entourent. Ce que l'on a présenté ce matin, y compris au Laos, ce sont des gens qui se sont levés. Et bien d'autres avec eux. Et cela, ce lève-toi, nous concerne également. Mais ma question, c'est comment porter cet amour? Et je veux reprendre une petite réflexion que j'avais faite lors d'une réunion de prière de l'EMM il y a quelques semaines. Je vais vous lire un texte qu'on a lu il n'y a pas longtemps, que nous a lu Philippe, que nous a lu Matthieu, et je vais le relire, parce que je crois que si Dieu nous remet ce texte, c'est qu'on en a besoin. Dans Matthieu 22, au verset 34, les pharisiens apprirent qu'ils avaient réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ou ton intelligence. » C'est le premier et le grand commandement. Jésus aurait pu s'arrêter là, mais il en a rajouté un. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dans ce texte, le mot qui ressort, c'est aimer, c'est l'amour. Tu aimeras. Le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme, ton intelligence, ta force. C'est le premier, le plus grand commandement. Et Philippe nous l'a rapporté l'autre dimanche, si l'amour de Dieu n'est pas dans nos cœurs, nos âmes, nos pensées, en tout premier, alors tout le reste ne sert à rien. C'est du vent, c'est tout du pipeau. Aimer Dieu est au centre de nos vies de chrétiens, rachetés par son amour. Ça, c'est la première des choses et la plus importante. Cependant, le Christ va plus loin. Il rajoute un deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Noémie, dans son petit texte, nous rappelait cela. Incroyable, on n'en a pas parlé et elle est revenue au même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hey, là, à mon avis, c'est déjà plus compliqué. Et le Christ d'affirmer que ce deuxième commandement est semblable au premier. Il en est le reflet. Plus que là, il est pareil, il est semblable. L'un, aimer Dieu, ne va pas sans l'autre, aimer son prochain. Et Jésus de préciser, comme soi-même. S'aimer soi-même. Aïe, aïe, aïe. Alors là, en tout cas pour moi, ça se complique encore.
Si nous sommes là ce matin, ici ou derrière notre écran, c'est que nous aimons Dieu en Jésus-Christ et que nous essayons d'aimer notre prochain. Mais s'aimer soi-même, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut signifier? Est-ce que je m'aime? On va essayer d'approfondir un tout petit peu cette question. Un philosophe a écrit « Au commencement était la relation », un peu comme dans la Genèse, au commencement. En effet, nous voyons dans la Genèse que Dieu a créé l'homme et la femme dans la perspective d'avoir une relation avec eux. Relation d'amour, relation de partage, relation d'échange. Nous le savons, cette relation a été rompue par la chute, par le péché. Elle a été rétablie par Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, dans notre monde, dans notre société, tout est relation dans la vie. Relation à Dieu, relation aux autres, à la société, relation à la nature, relation aux animaux, etc., etc. Et là, je me pose, ou je nous pose une question, quelle relation avons-nous avec Dieu? Quelle relation avons-nous avec les autres? Quelle relation avons-nous avec nous-mêmes? Si je reprends le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Ok. Le deuxième commandement, « Tu aimeras ton prochain ». Ok. Comme toi-même. Il y a là de quoi écrire une belle équation de vie. Amour de Dieu ou aimer Dieu sur amour de soi, s'aimer soi-même, égale amour du prochain. C'est une belle équation. Aimer Dieu sur amour de soi-même égale amour du prochain. Oh, je ne suis pas psy, je ne suis rien du tout. Je vais simplement vous dire quelques pensées. Je suis un petit peu inspiré de Georges Aldas, un célèbre écrivain genevois. Qui est ce prochain? Qui est cet autre que je dois aimer? Que je dois, qu'il me faut aimer? Eh bien, l'autre, ce premier autre, en fait, c'est déjà moi. Dans ma vie, le premier autre, c'est moi. Tout est une relation, et je dis tout à l'heure. Je suis le fruit d'une relation, celle de mes parents. Ce corps dans lequel nous vivons, ce n'est pas nous qui l'avons conçu. Nous habitons une maison que nous n'avons pas construite. Notre propre corps, avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il y a dedans, c'est déjà l'autre, le premier autre. Je me rappelle une BD du chat, je ne l'ai pas ici, mais mon scanner ne marche plus. Une BD du chat, de Gueuluc, vous savez, ce chat là qui fait des... Alors, il y avait trois images, le chat un peu immobile, qui dit dans la première image, on ne choisit pas ses parents. On est d'accord. La deuxième image, on ne choisit pas sa famille. Puis la troisième image, il se tourne un peu comme ça, puis il dit, en fait, on ne se choisit même pas soi-même. On ne se choisit même pas soi-même. Et ça, c'est vrai. Et il faut, pour vivre et aimer, accepter ce corps, ce premier autre qui est moi. Accepter d'être en vie, déjà. D'être là, dans ce monde. S'accepter avec son sexe, homme, femme. S'accepter avec son physique, avec son caractère, sa mémoire, son intelligence. S'accepter avec ses capacités, s'accepter avec ses limites. Accepter son passé, parce que ça, c'est pour tout le monde. Ah ben dis donc. Là, il est doué, mon... Alors, je vais lui faire un grand merci. Voilà, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne se choisit même pas soi-même. Hein. Ouais, c'est... Il y a de la vérité là-dedans. Hein. Alors, c'est vrai que j'essaye d'aller un petit peu plus loin sur un certain point par rapport à la relation au prochain. Hein. Donc, on peut... C'est bon, tu peux l'enlever maintenant. Donc, accepter mon passé, mes préoccupations, ma manière d'aborder les choses, ma manière d'être, mes angoisses, mes peines, mes joies, mon avenir, mes réactions, etc., etc. Si j'ai une bonne relation en moi, avec lui, ce premier autre, je peux alors envisager le sens de l'autre qui est en face de moi, qui est mon prochain. C'est dans ma relation avec moi-même, cette relation peut parfois être difficile, tumultueuse, mystérieuse, des fois elle est bonne. C'est dans cette relation avec moi-même, cette relation qui peut être apaisée par la présence du Christ en moi, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais je n'ai pas le temps ce matin, c'est dans cette relation, bonne relation avec moi-même que je peux alors exister, que je peux aimer et commencer à vivre afin d'aimer cet autre en face de moi, avec sa part visible, son geste, sa tête penchée, ses mains, son sourire, et sa part essentielle, non visible, faite de toute son histoire, chargée de tout son vécu. Et pour cela, il me faut un regard sensible, animé de cette partie intime en moi, le regard du cœur. Que cette part invisible, intime en moi, soit renouvelée par le Saint-Esprit, afin qu'avec les yeux du cœur, l'autre apparaisse, que je puisse l'aimer, être ému de compassion pour lui et lui témoigner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Toi, lève-toi et va au nom du Christ et aime ton prochain comme toi-même. Amen.
Je propose de prier comme bénédiction à l'issue de ce culte, après quoi nous aurons encore quelques annonces par Elisabeth. Seigneur, tu nous as aimés le premier. Nous sommes tous tes créatures, notre Dieu, belles à tes yeux, acceptées, reconnues. Seigneur, donne-nous de porter cet amour vers les prochains vers lesquels tu nous enverras dans tout au courant de cette semaine. Que ta présence accompagne chacun de nous dans cette communauté, tout particulièrement ceux qui passent par des temps difficiles. Oui Seigneur, que ta lumière brille sur nous et se répande autour de nous. Amen.
Ça coince dans les lunettes. Bonjour. Peut-être que vous avez été surpris de ne pas recevoir le mémo, mais vu les circonstances et les informations, les recommandations qui changent très très souvent ces temps, on s'est dit que c'était très très difficile, voire impossible, de faire un programme pour ce mois. Alors le conseil a décidé qu'il n'y aurait pas de mémo et que les informations viendraient par d'autres moyens. Donc, alors concernant le culte, donc tant qu'il n'y a pas d'informations différentes, on continue avec 50 personnes sur inscription. Le programme pour les enfants, le potager, donc continue. Alors, voilà. Alors maintenant, c'est le potager numéro 2 avec le nouveau programme. Donc, il est à... Alors, Éléonore en a, si vous voulez... Voilà, elle peut vous en remettre. Voilà, elle en a à disposition. Concernant la garderie, il y aura une information cette semaine. Ce n'est pas encore très, 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 très clair. Donc, il y aura une information par un actu mérin. Par contre, les activités en semaine sont suspendues. pour le moment. Toutes les, chaque fois qu'il y a des informations, de nouvelles informations, comme ça change souvent, il y aura un actu où vous serez informé par les WhatsApp, ceux qui sont sur le groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp et que vous désirez l'être, vous pouvez demander à Daniel, c'est Daniel Strubin.
Daniel Strubin ou Zena.
Voilà, Daniel Strubin ou Zena qui vous ajoutera sur le groupe WhatsApp si vous le désirez. Donc il y a l'actu Mérin. Pour ceux qui n'ont pas de, ni WhatsApp ni l'ordinateur, sans parler, on a possibilité encore de les avertir par téléphone. Alors voilà, donc l'équipe pastorale, donc Célina et Philippe sont à disposition. Si vous avez besoin de les rencontrer, de prendre contact, n'hésitez pas, ils ont leur téléphone et leur cœur ouvert pour tous ceux qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas à les appeler. Maintenant, il y a quand même encore une autre information, Anne-Marie, concernant les paquets de Noël. Je te laisse la parole.
Alors, avant d'attaquer les paquets de Noël, on hésitait, on s'est dit, on ne va pas priver les gens des pays de l'Est de cette action paquet de Noël, en sachant qu'on ne savait pas comment ça allait évoluer, puis ça change tout le temps. Donc, on a été assez bousculés ces derniers temps, parce que nous, on est encore tributaires avec Marcel, on habite en France, des directives françaises. Donc, on quitte le territoire suisse aujourd'hui, et puis après, on passe le flambeau pour la suite du programme, parce qu'on ne pourra pas... On ne pourra pas assurer. Donc, c'est important, on allait à la confection des paquets de Noël cette semaine et la semaine prochaine, mercredi 4, jeudi 12, de 14 à 16h30, et il faut vous inscrire sur le panneau là-bas. On va faire un actu Mérin aussi, où vous pourrez aussi vous inscrire par courriel auprès de moi. 5 personnes maximum, c'est les conditions, et puis avec toutes les précautions d'usage. Et si une personne ne peut pas venir tout l'après-midi, elle nous signale les heures où elle peut venir et une autre peut compléter le créneau horaire pour qu'on ait du monde pour faire ses paquets. Et il nous faudra aussi 2 personnes pour faire les transports de ces paquets. Nous, on ne pourra pas les assurer vu qu'on est coincé sur France. Donc, soit avec un grand véhicule ou deux véhicules normaux, c'est un... à porter derrière, dans un dépôt derrière la gare. Alors voilà, on espère que tout va bien se terminer, on est en confiance, et puis on vous remercie pour tout votre soutien. Si jamais des personnes veulent faire des paquets tout faits, il faut vraiment vous en tenir strictement aux prescriptions, à la liste qui est sur ces papillons à l'intérieur, et vraiment mettre tout ce qui est marqué pour les paquets, soit paquets enfants, soit paquets adultes. Il faut tout mettre dedans et rien de plus. Et marquer dessus que c'est un paquet pour enfants ou si c'est un paquet pour adultes, qu'on sache après pour la distribution. Et toutes ces choses-là, il faut vraiment les apporter au plus tard, jusqu'au jeudi 12 novembre, pour qu'on puisse après faire le transport. Merci beaucoup.
Voilà, on est arrivé au terme de ce culte. On vous souhaite à chacun un bon dimanche. Sylvain, c'est bon, il n'y a rien d'autre à dire. Et puis, bien entendu, venez chercher votre petit signet pour vous accompagner, qui vous accompagnera dans...